sujet sur le mariage, c'est un sujet qui nous tient à cœur, et pas seulement à moi, puisque plusieurs des choses que vous entendrez cet après-midi sont inspirées de réflexions que nous avons partagées avec Pierre-Yves et Elisabeth Charrière, et avec lesquelles nous organisons très modestement des préparations au mariage pour les jeunes qui sont fiancés ou tout nouvellement mariés. Et c'est vrai que c'est un sujet qui nous a semblé important et sur lequel on a besoin à la fois d'un enseignement un peu systématique, et ce sera le propos des premières parties, tant de la première mi-temps que de la deuxième mi-temps, mais aussi d'éléments plus pratiques, et cela c'est plutôt ce que nous verrons dans les deuxièmes parties. Alors c'est vrai que dans le cadre d'une conférence comme cela, un peu ex cathedra, il est difficile de rentrer dans les détails précis. Vu l'audience aussi, il y a certains sujets qu'on est obligé d'aborder de façon un peu plus elliptique qu'on peut le faire en face à face. Mais j'aimerais encourager tous ceux qui ont à cœur, les couples et les familles chrétiennes, de commencer, de faire comme cela des rencontres ou des préparations au mariage, quitte d'ailleurs à faire venir des intervenants extérieurs. Il existe des chrétiens et des chrétiennes, des couples chrétiens qui ont à cœur cela et qui mettent leurs dons à disposition. Et je crois que c'est vraiment très important. Nous verrons dans la suite de l'exposé le contexte dans lequel nous vivons et qui, à mon avis, justifie grandement ça. Un autre point aussi en introduction, avant d'aborder vraiment le détail, c'est que nous allons aborder un sujet qui nous touche, le mariage. Dans cette salle, il y a sans doute des jeunes qui ne sont pas encore mariés, mais qui pensent peut-être. Nous avons peut-être des fiancés qui ont le mariage proche. Nous avons des jeunes mariés, des couples plus avancés, chacun avec ses hauts et ses bas. Nous avons aussi des personnes veuves, des personnes célibataires, des grands-parents. C'est heureux d'avoir une assemblée aussi diversifiée. Mais aussi, on va toucher des sujets délicats. Et peut-être que chez l'un ou chez l'autre, tel ou tel point risque de toucher une corde sensible. Et ne m'en veuillez pas, je ne connais pas les circonstances individuelles de chacun de vous, mais la parole de Dieu est là, et je crois qu'elle est là pour nous apporter l'encouragement et la guérison, quelles que soient les situations que l'on puisse connaître. Et pour cela, nous nous en remettons à la grâce et à la miséricorde de notre Dieu. C'est donc un sujet aussi que l'on aborde forcément avec son histoire, sa sensibilité personnelle, familiale. D'autres l'auraient abordé un peu différemment. Voilà, à vous de voir et de juger. Donc, le sujet est organisé en deux parties, le défi de l'engagement, le défi de la persévérance. La première partie s'adressera plutôt à ceux qui pensent au mariage, et la deuxième partie à ceux qui y sont déjà. Cela étant, je crois que chacun de nous, on a autour de nous des couples, on a des personnes avec qui on pourra partager ou échanger, quelle que soit notre situation matrimoniale, et on peut trouver de l'édification dans chacun de ces côtés-là. Le défi de l'engagement, nous allons regarder ce sujet en deux grandes parties. Comme je vous disais, la première partie sera un petit peu plus, j'ose pas dire théorique, mais enfin un petit peu les bases bibliques. Et ensuite, dans une deuxième partie, nous allons davantage regarder les considérations pratiques. Mais je crois que c'est toujours important. Alors, bien souvent, quand on a une présentation comme cela, on se dit « Ah, chic, vivement la deuxième partie, parce qu'au moins ça va être pratique, ça va être concret. » Mais la parole de Dieu nous enseigne qu'il est sage de partir du fondement et ensuite de bâtir dessus, et que les considérations pratiques puissent s'appuyer sur des données bibliques. Et c'est ce que nous allons essayer de faire par la grâce de Dieu. Alors, tout d'abord, nous allons regarder le défi de l'engagement et revenir à la base, à la finalité du mariage. Le mariage, c'est une ordonnance créationnelle. C'est Dieu qui a créé le mariage. Ce ne sont pas des hommes qui, un jour, ont décidé d'inventer le mariage. C'est Dieu qui, au départ, a institué cela en partant d'un constat. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. En prenant une décision, je lui ferai une aide qui lui correspond. On peut traduire une aide semblable à lui, ou qui, plus exactement, une aide qui lui soit un vis-à-vis. Je pense que c'est la traduction la plus littérale que l'on peut faire et sans doute une des plus justes. Et puis ensuite, Dieu a eu une action, et on connaît l'histoire, il a fait tomber le sommeil sur Adam et il a tiré de la côte d'Adam une femme pour que Adam ne soit plus seul, parce qu'il n'avait trouvé aucun animal qui lui corresponde, et qu'il ait cette fois-ci un vis-à-vis, quelqu'un qui soit un autre lui-même tout en étant différent. Suite à quoi Dieu prononce une déclaration fondatrice. Quand on lit la Genèse, on se dit que peut-être c'est Moïse qui l'a rajouté, mais le Seigneur Jésus dans l'Évangile précise que, en Matthieu 19, verset 5, il s'agit d'une parole même de Dieu. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux seront une seule chair. » C'est donc le verset fondateur du mariage. Nous y reviendrons de nombreuses fois parce que on verra que sur ce texte-là, eh bien, il y a beaucoup de choses qui finalement prennent appui. Deuxième point, c'est que le mariage, c'est une institution qui demeure. Dieu maintient le mariage. On sait que, après le chapitre 2 de la Genèse, malheureusement, il y a le chapitre 3, avec ce qu'on appelle la chute. Mais le Seigneur, en Matthieu 19, revient là-dessus et dit, ce qui était au commencement, il n'en était pas ainsi, et il rétablit ce qui était au commencement. Donc ce qui est au commencement demeure. Autre point, c'est que Dieu crée le mariage. Et dans ce sens, c'est bien lui qui unit un homme et une femme qui ont décidé un plan de vie commun. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, dit le Seigneur, ce que Dieu a uni. Le mariage est une institution divine et il repose sur un trépied fondateur. Donc on va revenir sur ce texte de Genèse chapitre 2, verset 24. Et on va voir que pour être stable, le mariage doit reposer sur un trépied. Alors là, vous avez des chaises. Vous savez que souvent les chaises ont quatre pieds. Mais le problème des quatre pieds de chaise, c'est que souvent, il y en a un qui est légèrement inférieur à l'autre ou il faudrait limer un petit peu. Tandis qu'un trépied, c'est stable. Et c'est pour cela que dans l'Écriture, on trouve assez souvent, pour des choses importantes, on pourrait penser à la conversion, je ne vais pas développer ce sujet maintenant, mais on trouve assez souvent des trépieds. Et pour le mariage, c'est exactement ce que la parole nous présente, il y a un trépied. Le mariage, selon Dieu, repose sur trois éléments. Un acte public d'émancipation. L'homme quittera son père et sa mère. Déclaration au demeurant un peu surprenante, puisque Adam et Ève n'avaient à quitter ni père ni mère. Donc on voit bien que Dieu parlait non seulement pour eux, encore plus davantage pour ceux qui allaient venir ensuite. L'homme, alors il y a peut-être certaines filles qui disent « Oui, mais moi, au moins, je ne suis pas touchée parce que je peux rester attachée à papa-maman. » Non, parce que le Seigneur, quand il cite ce verset dans le texte grec dont nous disposons, n'utilise pas le terme « homme masculin », mais le terme « anthropos », qui signifie « l'être humain ». Donc on pourrait traduire « l'être humain quittera son père et sa mère » d'après le chapitre 19 de l'Évangile selon Matthieu. Deuxième point, c'est que le mariage selon Dieu, c'est un libre choix réciproque. L'homme s'attachera à sa femme. Il y a donc une décision personnelle volontaire. Troisième point, une vie commune intime. Ils seront une seule chair, ils deviendront une seule chair. Donc il y a une union intime, au plan physique, certes, mais aussi dans un sens plus large. Ce bout de verset, me semble-t-il, devant aller bien au-delà. C'est une ordonnance, le mariage, qui précède la chute. De ce point de vue-là, quand vous vous mariez, j'ai une bonne nouvelle, vous ne commettez pas de péché. Encore une autre bonne nouvelle, c'est que les relations sexuelles ne sont pas un péché. Et c'est une funeste influence de la philosophie grecque, platonicienne, dans l'Église, qui à partir malheureusement du début de l'Église, et on en trouve les premiers germes dès les 2e, 3e siècles, qui a introduit cette idée que les relations sexuelles, dans le cadre du mariage, étaient quelque chose de sale, quelque chose de pécheresse, etc. On raconte qu'il y a ne serait-ce que quelques dizaines d'années, certains curés demandaient aux femmes de leur paroisse d'aller se confesser quand elles avaient eu des relations intimes. C'est complètement faux. Et il faut rétablir les choses. Et de ce point de vue-là, nous les chrétiens, nous avons une voix à faire entendre, une voix qui ne soit pas l'exagération actuelle, mais qui soit pas l'exagération passée aussi. Alors c'est vrai que le péché a tout entaché, y compris le mariage. Mais néanmoins, le projet de Dieu demeure et peut continuer à être vécu, même si c'est imparfaitement. C'est sûr que notre mariage ne sera jamais parfait, parce qu'on n'est pas au ciel, parce qu'on est deux êtres pécheurs. Toujours en prenant appui sur ce même texte, on peut souligner l'importance de l'ordre dans le trépied. C'est vrai que les trois pieds sont importants, mais ils sont donnés dans un ordre. Et cet ordre est significatif, c'est qu'il faut d'abord quitter son père et sa mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être assez mature. On en parlait avec des amis il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'un enfant ou un ado ou un jeune de 14 ou 15 ans n'a pas forcément la maturité pour penser à cela aujourd'hui. Dans d'autres civilisations, dans d'autres contextes, la maturité pouvait venir plus tôt. Mais dans notre 2007 en France, eh bien, la maturité n'est pas forcément là. Donc il faut avoir une certaine maturité pour ne plus être dépendant, au moins psychologiquement très fortement, de son père et sa mère. Peut-être cela aussi peut signifier une certaine indépendance financière, nous y reviendrons aussi. Et peut-être aussi avant de penser mariage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, là aussi nous en reparlerons, mais peut-être qu'il est sage aussi de ne pas se mettre la pression à soi-même, pensant mariage en disant « Ah là là, c'est à 17 ans, j'ai pas un petit copain ou une petite copine avec laquelle je vais pouvoir faire ma vie. » Non, attendons. Quitter son père et sa mère, ça prend parfois pour certaines personnes jusqu'à 30 ans bien sonné, et bien voilà, ça prend jusqu'à 30 ans bien sonné. Pour d'autres, à 17 ans, la page est déjà bien tournée. Tout dépend des personnes. S'attacher à sa femme aussi. S'attachera à sa femme, c'est forcément progressif. Cet attachement, on le verra au travers, par exemple, des fiançailles. Enfin, être une seule chair vient en dernier. La démarche publique doit précéder la réalisation du projet de vie et de l'union des corps. De sorte qu'on va revenir sur ce mot qu'on trouve dans la Bible, mot désuet aujourd'hui, qu'on appelle la fornication, et qui traduit un mot grec dont le sens est très clair et qui signifie toutes les relations sexuelles en dehors du mariage. Et on verra que Dieu nous donne des indications très claires là-dessus dans la parole de Dieu. Alors, si on revient à notre trépied fondateur, on voit qu'au cours de l'histoire de l'homme, au sens général, eh bien, ce trépied, il a souvent été un peu quinca, et que ce trépied, il a parfois été brisé. Alors, autrefois, il y avait une situation traditionnelle, c'était le mariage arrangé. Avant même, parfois, la naissance des enfants, eh bien, les deux pères se mettaient d'accord pour que il y a une union entre les deux familles parce que ça arrangeait les champs ou que sais-je, parce que ça permettait ceci ou cela des relations, que sais-je. Dans ce cas-là, il y avait un problème. Le libre choix réciproque n'était pas assuré. Ce n'était pas vraiment le trépied dans la pensée de Dieu. De sorte que il est inutile d'idolâtrer le mariage comme ça se faisait avant. Non, ce n'était pas forcément l'idéal selon Dieu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ah, le libre choix réciproque. Ça, c'est entré dans les mœurs. Par contre, il y a un truc qui a disparu, c'est l'acte public d'émancipation. Aujourd'hui, l'union libre. Eh bien, là aussi, on n'est pas dans le plan initial profond de Dieu qui veut qu'il y ait ce trépied et pour que le mariage soit stable et solide. Pourquoi? Parce que le mariage, fondamentalement, selon Dieu, est une alliance. Et une alliance à trois niveaux. C'est une alliance d'abord entre l'homme et la femme. Vous avez ici un texte cité du prophète Malachie, un petit prophète à la fin de l'Ancien Testament, qui dit que la femme est ta compagne et la femme de ton alliance. Mais c'est aussi une alliance devant Dieu. Dans le livre des Proverbes, Salomon avertit le fils de la sagesse contre la femme étrangère, l'étrangère qui use de paroles flatteuses, qui abandonne le guide de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance de son Dieu. Donc c'est une alliance entre l'homme et la femme, mais devant Dieu. C'est bien pour cela que moi, je porte une alliance pour que visiblement, devant tous aussi, et c'est le troisième point, devant des témoins officiels, on s'est échangé des alliances, devant le maire de Suresnes en 1994, et bien voilà, je porte une alliance, que de façon officielle aussi, il y ait ce témoignage que Anne et moi, nous sommes mariés, et on a un exemple biblique qui nous est donné dans un petit livre, le livre de Ruth, et qui montre comment Boaz a souhaité, devant les anciens de Bethléem, prendre officiellement Ruth comme sa femme, alors que les choses auraient pu peut-être se passer différemment, mais il a pris devant des témoins officiels. Le mariage est un acte civil. Le mariage concerne tous les hommes et pas seulement les fidèles. Ben oui, c'est vrai. Il n'y a pas que les chrétiens qui se marient. Il y a aussi des bouddhistes. Les anthropologues ont trouvé dans quasiment la totalité des civilisations sur la Terre une institution qui n'a pas forcément le formalisme de nos mariages européens, mais qui existe et qui est une marque de la grâce commune de Dieu. Donc c'est une constante de l'humanité, même s'il y a diversité de pratiques, diversité de façons de marquer le mariage, pas forcément tout le monde porte une alliance, surtout en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais néanmoins, s'il y a diversité de pratiques, il y a universalité de l'institution. Cela étant, pour les chrétiens, le mariage revêt une dimension spirituelle plus importante. Le trépied, pour ainsi dire, c'est la base minimale du mariage. Pour nous, s'ajoute le désir de répondre au plan de Dieu. Et ce désir, je le marquerai en trois points. L'indissolubilité du lien, en contraste avec le divorce ou la séparation. En tant que chrétiens, nous prônons l'indissolubilité du mariage. L'unicité de la relation, c'est le plan de Dieu. On voit que même dans l'histoire biblique, ça n'a pas toujours été réalisé, mais c'est néanmoins le plan de Dieu, en contraste avec la polygamie, la polyandrie ou l'adultère. Et l'union en un seul cœur, en contraste avec une union qui est réduite au plan charnel. De sorte que le mariage entre deux chrétiens ajoute une dimension supplémentaire. Pour autant, le mariage entre deux chrétiens n'est pas un sacrement. Tant que tel, le mariage n'a pas de conséquences spirituelles directes, même s'il est vrai qu'on s'en aide spirituellement l'un à l'autre quand on est tous les deux chrétiens. Ça, c'est très juste. Mais en tant que tel, non. C'est pour cela qu'en tant que croyants protestants, je le dis sur le plateau, nous n'avons pas la pensée que le mariage soit un sacrement. Et d'ailleurs, la Bible est muette sur une cérémonie de mariage religieuse. L'union est scellée devant l'autorité compétente, nous dit Romains 7, verset 2, et la cérémonie qui suit souvent, eh bien, elle est là pour remercier, pour prier, pour être enseignée, pour témoigner devant nos amis. Elle n'a pas de fondement biblique avéré, même si elle est très heureuse, et si beaucoup de ceux qui sont mariés ici se souviennent de leur réunion de mariage avec reconnaissance. Alors, c'est un acte civil. Alors, on peut dire, oui, d'accord, le mariage, c'est gentil, mais l'union libre.